Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Suite et mi-chemin d'une semaine sur Bergson, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine pour lire, relire, écouter, entendre et aimer Henri Bergson. Depuis lundi dernier, Florence Kemax et Arnaud Boisniche nous accompagnent pour donner donc à entendre, comprendre l'œuvre du philosophe qu'il est impossible de comprendre sans le trouver génial, l'œuvre de Henri Bergson et sa difficile simplicité. J'estime que les grands problèmes métaphysiques sont généralement mal posés, qu'ils se résolvent souvent d'eux-mêmes quand on en rectifie l'énoncé, ou bien alors que ce sont des problèmes formulés en termes d'illusion et qui s'évanouissent dès qu'on regarde de près les termes de la formule. Ils naissent en effet de ce que nous transposons en fabrication, ce qui est création. Re et re-bonjour Florence Kemax et Arnaud Boisniche. Et bienvenue sur France Culture. Vous pouvez me répondre, hein, vous avez le droit de me dire bonjour aussi. Hein. Bonjour donc.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue donc de nouveau sur France Culture et au nouveau chemin de la connaissance. Chez Bergson, paradoxalement, on dit souvent en philosophie qu'on peut poser toutes les questions, que toutes les questions sont licites. En l'occurrence, chez Bergson, on a le sentiment que son travail consiste aussi à dissoudre un certain nombre de questions, à considérer que si certains problèmes sont insolubles, c'est précisément non pas parce qu'ils sont insolubles, mais parce qu'ils sont d'abord mal posés. Florence Kemax.
Oui, en effet, et de la même façon que, au fond, nous avons pour Bergson à nous débarrasser de certaines habitudes issues de notre vie quotidienne, la philosophie aussi doit finalement se débarrasser d'un certain nombre de problèmes et aussi de concepts qui y sont liés, en fait. C'est une préoccupation constante de Bergson que de montrer que des problèmes classiques qui passent d'un philosophe à l'autre dans la tradition peuvent trouver, non pas leur solution, mais peuvent trouver une issue pour autant qu'on prenne les choses autrement, à l'envers. Et en général, donc, à partir de la durée.
Les prendre à l'envers, en fait, c'est les remettre à l'endroit. Hein. Les prendre à l'envers de l'usage, en général, ou de la façon dont, en général, nous les envisageons.
Oui, c'est ça. Ou prendre à l'envers. Ou quand je veux dire prendre à l'envers, j'entends que l'effort de Bergson est de montrer qu'il y a des présupposés derrière certaines positions de problème. Et quand on va regarder les présupposés qui sont dissimulés derrière, alors ces problèmes perdent leur consistance ou s'évanouissent.
Alors allons vers le présupposé en chef, hein, celui qu'il formule dans La pensée et le mouvant, et dans un texte intitulé Le possible et le réel, dont on parlera d'ailleurs plus particulièrement demain, mais dont on va partir aujourd'hui pour décrire donc ces faux problèmes et puis en venir à ce qu'il dit de l'intelligence, de l'instinct et surtout de l'intuition philosophique. Partons donc de ce présupposé en chef, la matrice des faux problèmes aux yeux de Bergson. Les faux problèmes naissent de ce que nous transposons en fabrication, ce qui est création. Est-ce que j'ai raison, Arnaud Boisniche, de redire ce qu'il dit en disant que, en le comparant par exemple à, je ne sais pas moi, si vous faites une blague, vous êtes à table avec des bons amis, vous faites une blague, vous faites rire l'assistance. Sauf qu'il y a une personne dans l'assistance qui ne vous a pas entendu et qui vous demande d'expliquer votre blague. Si vous expliquez votre blague, le rire s'estompe, ça cesse d'être drôle. En somme, les faux problèmes, bizarrement chez Bergson, naîtraient du fait qu'on substituerait à la spontanéité d'un élan une reconstruction laborieuse, en fait à la spontanéité de la création, une laborieuse fabrication.
Oui, c'est-à-dire qu'expliquer la blague, en l'occurrence ici, ce serait rompre le charme, briser ce qui faisait le caractère comique de cette blague, et vivant, et se placer en quelque sorte à l'extérieur et décrire la blague par conséquent.
Pourquoi une blague n'est pas drôle quand on l'explique, voilà. C'est ça l'enjeu quand même. Hein.
elle n'est pas drôle quand on l'explique parce qu'on se situe à l'extérieur, on adopte le point de vue du spectateur sur cette blague et par conséquent, on en perd le caractère vivant, le caractère délié, ce qui faisait que tout le monde était rassemblé dans une même spontanéité et que celui qui en était exclu, tout à coup, fait disparaître ce moment de participation cette durée commune que pouvait être tel ou tel récit dans lequel chacun, auquel chacun prenait part.
Juste une chose, on va revenir hein, sur ce décalage entre la fabrication et la création, puisque c'est ça l'enjeu, bien sûr. Juste une chose, vous avez parlé de durée commune. C'est peut-être pas innocent. Bien souvent, d'ailleurs, depuis deux jours, donc, on parle de la durée. Et c'est vrai que tout ce qu'on en a dit jusqu'ici peut donner le sentiment que la durée est une affaire intime, une affaire d'individu, une affaire d'individualité. Est-ce qu'il y a chez Bergson, il y a chez Bergson l'ambition d'étendre la durée au-delà, d'une certaine façon, de l'individu. Et est-ce qu'on peut considérer, d'ailleurs, que l'œuvre de Bergson consiste d'un passage de la durée intime à, finalement, une sorte de durée collective qui culminerait avec son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, Florence Kemax?
Oui, tout à fait. Dans la mesure où Bergson entre dans la question de la durée, ou met au jour cette notion, cette idée de la durée à partir de la conscience, qui est là rigoureusement la conscience individuelle, celle que chacun de nous possède, au moins en droit. Et puis, cette question de la durée n'est pas du tout limitée à la conscience au sens psychologique du terme, mais s'élargit dès matière et mémoire autour de la réalité, c'est-à-dire y compris peut-être la matière qui semble-t-il comporte aussi une certaine durée. Et puis, la durée prend une forme encore nouvelle quand il s'agit de l'évolution, de l'élan vital, de ce qui préside au développement de la vie, voilà. Et puis, en effet, revient sur un territoire plus proprement humain avec la question de la société, où la distinction, où la dualité entre la société close et la société ouverte fait à nouveau intervenir.
Ça, c'est une distinction qui intervient dans les deux sources de la morale et de la religion chez Bergson. Donc, son dernier livre écrit, non pas son dernier livre publié, puisque le dernier livre publié, c'est La pensée et le mouvant, en 1934. On en revient à cette question des faux problèmes ou la façon dont les faux problèmes surgissent. Est-ce que vous pouvez, l'un comme l'autre, me donner un exemple, nous donner à tous un exemple de faux problèmes qui naîtraient de cette substitution finalement de la fabrication à l'élan d'une organisation spontanée, Arnaud Boinich?
Poser un faux problème, par définition, donc c'est ce que l'intelligence ne cesse de faire. Pourquoi ? Alors, il faut dégager le critère ici, on en revient à la distinction de laquelle on était parti, et à laquelle il faut toujours revenir, hein, en suivant les conseils de Bergson, c'est-à-dire la distinction entre la durée et l'espace. Et un problème mal posé, c'est un problème qui est posé en fonction de l'espace, au lieu d'être posé en fonction du temps. Et dès qu'il est posé en fonction du temps, bien souvent, il se dissout, il s'évapore. Alors, Bergson ne cesse, depuis son premier livre et dans tous les livres suivants, d'aborder, justement, des grandes questions de la philosophie qui, selon lui, ont donné lieu à des faux problèmes. Il part du problème de la liberté, puis...
Par exemple, restons sur le problème de la liberté un instant, c'est très intéressant. Dans quelle mesure la liberté, donc, est-elle un faux problème, du point de vue de Bergson?
La liberté est un faux problème, ou plutôt la liberté cesse d'être un fait pour devenir un problème à partir du moment où, au lieu de la poser là où elle se produit réellement, c'est-à-dire dans mes actes, et par conséquent dans la durée, je me mets à me la représenter dans l'espace. Par exemple, en considérant que agir librement, c'est se donner des raisons, c'est obéir à des motifs, c'est se donner un but, c'est...
Ou bien tout simplement avoir des moyens. Celui qui dit « moi qui ai plus d'argent que toi » ou « toi qui as plus d'argent que moi », »,« tu es plus libre que moi », »,« tu as plus de moyens que moi », »,« je mesure ta liberté et tu mesures la mienne à l'aune de son champ d'action ». De l'extension de son champ d'action. Est-ce que ça n'est pas une représentation spatiale de la liberté qui se heurte au fait qu'on a beau être milliardaire, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et qui se heurte également au fait que la liberté, finalement, elle est intime, elle est intransitive, et qu'en somme, elle ne relève pas de mon rapport à l'espace, et que d'une certaine manière, un peintre qui suivrait le fil, qui serait fidèle à ce qui le fait peindre, est plus libre qu'un homme qui ferait ce qu'il veut ou qui croirait pouvoir faire ce qu'il veut.
Alors, fondamentalement, faire dépendre la liberté, par exemple, de son pouvoir financier, disons, son pouvoir matériel, c'est
le...
Ce qu'on fait en général, c'est poser la liberté en termes de quantité, c'est-à-dire de concevoir la différence... entre les individus serait une différence simplement mesurable, quantitative, quantifiable en fonction de son de l'argent dont on dispose. Bergson se débarrasse de tous ces critères extérieurs et je suis libre pour lui quand une action me ressemble. Quand il y a entre l'acte que je produis et moi-même, cette ressemblance, dit Bergson, qui peut exister parfois entre l'œuvre et l'artiste. C'est plutôt être libre, c'est plutôt être conforme à soi-même ou agir conformément à soi. Et en ce sens, on peut considérer que une colère d'Alceste, hein, le misanthrope, par exemple, est un acte libre, parce que dans cette colère, il y a toute sa misanthropie, tout son personnage, comme dans un rire ou dans un sourire ou dans une phrase, par exemple, que quelqu'un peut prononcer parmi ses amis. On va le reconnaître justement à travers cette phrase comme étant tout entier présent dans ce geste, dans cette phrase. Par conséquent, le critère de l'acte libre n'est plus la conformité une motivation, à une raison extérieure d'agir, mais devient plutôt conformité ou expression de soi.
Bah tiens, on va entendre justement une colère d'Alceste dans laquelle Alceste maudit l'humanité tout entière avant de se demander si c'est un acte libre.
Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie.
Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tous les premiers...
Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte?
Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu ! C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant.
Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît.
Que la plaisanterie est de mauvaise grâce.
Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?
Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment.
Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse a des régales peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers.
Mais alors, justement, Alceste, Arnaud Boinich, quand il est en colère, quand il est fâché, est-ce qu'il est libre s'il adhère pleinement à sa colère ? S'il a le sentiment, en revanche, que sa colère est d'abord l'effet des circonstances extérieures, plus que l'effet de son caractère, alors il n'est pas libre, il rentre dans une contrainte.
Le caractère, précisément, pour Bergson, c'est nous-mêmes. C'est nous qui forgeons ce caractère. C'est avec tous les petits éléments qui constituent notre vie psychique que nous agissons et qui sont de nous. Bergson a cette formule, que nous sommes artisans de nos vies, artiste de nos vies, et le caractère, autrement dit, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous qui viendrait peser sur notre volonté, mais notre caractère, c'est nous-mêmes. Par conséquent, quand j'agis à travers mon caractère, c'est moi qui agis. Il n'y a plus d'extériorité entre moi et mon caractère. Je suis mon caractère, et ce caractère, je le forge. à travers l'ensemble des circonstances, l'ensemble des actes, je le forge dans mon existence, de telle sorte que lorsque j'agis avec tout mon être, je suis libre pour Bergson. Il faut cesser de penser la liberté en l'opposant à la nécessité, par exemple, ce qui serait parfaitement...
modèle d'un faux problème.
Le modèle d'un
faux en général, on oppose problème. Le libre arbitre à la méchante providence ou une bienveillante providence qui soit se servirait de nous comme du bras armé de sa propre réalisation, à la façon de l'oracle hein, qui annonce à Œdipe tout ce qui va lui arriver et destin auquel Œdipe concourt en voulant lui échapper. Hein, c'est un schéma classique. Il s'agit de sortir de cette alternative finalement d'un destin face auquel le libre arbitre essaierait de trouver sa place, en somme, et comme un homme qui, avec panache, ferait face à des éléments plus forts que lui, Florence Kemax.
Oui, je crois que sur ce point, il y a un rapprochement à faire entre Spinoza et Bergson qui ne se représente jamais la liberté comme un empire dans un empire. Quoi. C'est pas une poche.
C'est une expression de Spinoza.
C'est une expression de Spinoza.
On est au début de la troisième partie de l'éthique. Là, voilà. Hein. Ceux qui se représentent l'homme comme un empire dans un empire, c'est ceux qui font comme si l'homme était l'origine de ses actes.
Voilà. Et quand on veut traditionnellement que l'homme soit l'origine de ses actes, on veut que cela passe par une faculté spéciale qui serait propre à l'homme, qui est la volonté. Et Bergson montre très bien que la manière dont classiquement on se représente la volonté, c'est une rationalité qui est elle-même face à une série de possibles prédéterminés et dont finalement la liberté ou l'autonomie consisterait simplement à choisir une voie parmi d'autres. Et pour Bergson, c'est une vision rétrospective de l'acte libre, là où l'acte libre contient en lui-même, pour ainsi dire, son propre mouvement, et un mouvement qui n'est pas dessiné d'avance.
Voilà. C'est comme si la liberté consistait finalement à se poser le moins de questions possible. Non pas à décider quelque chose, mais à être décidé, non, Arnaud Boinich ?
Non, il me semble pas. Il me semble plutôt que ce que Bergson veut dire, il y a eu beaucoup de malentendus sur ce point dans l'essai... Et en particulier dans l'analyse que Bergson fait de l'acte libre. L'acte libre n'échappe pas à toute rationalité. L'acte libre a bien une rationalité, mais cette rationalité, dit Bergson, est toujours rétrospective. C'est-à-dire qu'avant que l'acte soit accompli, je ne peux pas dire ce que je vais faire, ce que je vais décider, ce que je vais choisir.
Oui, mais
en
de revanche, la même façon, oui.
Une fois ma décision prise, il y aura autant de raisons que je veux en détailler, qui seront autant de vues multiples que je pourrais prendre sur la décision que j'ai prise pour l'éclairer.
Oui, mais en tout état de cause, du point de vue bergsonien, je décide avant de délibérer.
Oui,
la délibération, absolument. En général, on dit qu'on délibère avant de décider, c'est pas vrai. Quand on délibère, on justifie la décision qu'on a déjà prise.
Tout à fait, la délibération n'est une vision rétrospective prise sur nos actes. Jamais nous ne sommes dans un carrefour entre deux voies, entre A ou B. C'est jamais sur ce modèle-là que nous agissons.
Est-ce que ça n'est pas justement ici, pour en rester encore un peu sur Bergson et Spinoza, que Bergson et Spinoza se ressemblent peut-être le plus profondément ? S'il n'y a pas de carrefour, c'est parce que finalement, pour Bergson comme pour Spinoza, il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a qu'une seule vie. Et comme il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule temporalité, celle dont nous sommes faits, celle qui nous constitue, non pas accidentellement, mais profondément, qui fait que du coup, comme les instants se succèdent, il n'y a jamais deux voies possibles, il n'y a jamais d'alternative. L'idée même d'alternative est un effet de la rétrospection. J'aurais pu aller à gauche au lieu d'aller à droite, mais je ne l'ai pas fait. C'est ici également que Bergson et Sartre se ressemblent, Florence Kemax.
Oui, tout à fait. À savoir que je pense que la liberté n'a pas une connotation morale, ni chez Bergson ni chez Sartre, c'est-à-dire ce n'est pas, on ne juge pas de la liberté d'un acte à partir d'un critère moral. Ce n'est pas un devoir de l'homme, disons, c'est un fait. Et c'est un fait que l'on éprouve. Et je crois que, aussi bien pour Sartre que pour Bergson, on l'éprouve au moment même où elle se fait, dans quelque chose qui ressemble à une forme de résolution qui s'atteste dans le fait qu'il y a une, non pas, je dirais, une coïncidence de soi avec soi, mais la certitude ou le sentiment d'une certitude qu'on est là où on doit être, ou qu'on est dans le bon, ou qu'on a pris la bonne voie parce qu'elle ouvre de nouveaux possibles.
Pas le regret de la voie qu'on n'a pas prise.
Voilà, absolument. Et je pense que des deux côtés, on a affaire à une conception de la liberté qui est plutôt ontologique, finalement. Elle appartient à l'être de l'homme en tant qu'il est durée, en tant qu'il est temporalité, chez Sartre aussi. C'est-à-dire que son avenir est d'une certaine façon ouvert.
C'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs. L'avenir est ouvert, Florence Kemax, l'avenir est ouvert dans la mesure où nous n'avons qu'une vie possible. C'est ce mélange des deux, c'est-à-dire que à la fois l'avenir est ouvert et en même temps, quand on dit j'aurais pu faire autre chose que ce que j'ai fait, c'est comme si on regardait l'avenir avec les yeux du passé.
Oui, mais c'est toujours une vision rétrospective qui réduira la liberté à n'être qu'un choix entre des voies prédéterminées.
Laissons ici la question de la liberté, puisqu'on va revenir principalement demain sur cette question, en parlant du possible, du réel et de la liberté, qui est une des choses les plus subtiles de Bergson. Mais c'est dire quand même que chez Bergson, tout se tient et qu'un problème en appelle un autre. Revenons à cette question de l'organisation et de la fabrication. Je voudrais vous proposer ici un texte de Leibniz, extrait de la monadologie, contre lequel, d'une certaine façon, Bergson pense. Écoutez.
Chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou un automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Parce qu'une machine faite par l'art de l'homme n'est pas machine dans chacune de ses parties. Par exemple, la dent d'une roue de laiton a des parties ou des fragments qui ne sont plus quelque chose d'artificiel et n'ont plus rien qui marque de la machine par rapport à l'usage où la roue était destinée. Mais les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. C'est ce qui fait la différence entre la nature et l'art, c'est-à-dire entre l'art divin et le nôtre.
Ce que dit Leibniz ici au paragraphe 64 de la monadologie, c'est qu'il instaure un rapport de commensurabilité entre l'art divin et le nôtre. Finalement, c'est la même chose. La nature fait des machines juste plus élaborées à l'infini, alors que nous faisons des machines finies, finiment élaborées. Chez Leibniz, c'est la même affaire. Or, chez Bergson, il y a une différence de nature entre les machines naturelles, qui relèvent de la création, de l'organisation, et les machines humaines, qui relèvent de la fabrication. Et nous ne pouvons pas établir un rapport de commensurabilité entre les deux, Arnaud Boinich.
Alors, on revient effectivement à la question des faux problèmes, et c'est un faux problème pour Bergson d'aborder la vie, précisément, de l'aborder à partir du mécanisme et à partir de la représentation que la vie a procédé par assemblage, par configuration de parties ou d'éléments. On retrouve un problème qu'on avait déjà rencontré, hein, celui de l'opposition, enfin, ou en tout cas de la distinction, mais Bergson les rabat l'un sur l'autre, hein, l'opposition entre le finalisme et le mécanisme. Au fond, l'un et l'autre essayent d'expliquer l'émergence d'une fonction, d'un ordre, d'un organisme, à partir d'éléments déjà existants, déjà donnés. Simplement, l'un explique l'apparition d'un ordre à partir du hasard, hein, c'est le mécanisme, ou de la nécessité, et l'autre à partir d'un plan, c'est-à-dire qu'il y aurait un architecte,
d'un but, d'une providence.
Voilà, d'un dieu qui aurait sagement ordonné les choses en vue de la production de tel ou tel être. Et Bergson, alors, ça, c'est le schéma de la fabrication. Et au fond, mécanisme et finalisme restent prisonniers de ce schéma de la fabrication.
C'est-à-dire d'un schéma de l'extériorité, d'un rapport d'extériorité aux objets, d'objectivation, ce qu'on avait vu quand on avait vu que vivre consistait à agir et choisir dans le monde, finalement, les objets en fonction de leur utilité. C'est la même chose en termes tout à fait pratiques et immédiats et quotidiens.
Exactement. Hein. Voilà. Et à cela...
On se fabrique un univers.
Voilà, absolument. Comme le Timée, hein, dans l'œuvre de Platon, qui a le démiurge, qui a les yeux fixés sur un plan et qui fabrique le monde. Hein. Alors, à ce point de vue, donc, qui est celui de la fabrication, Bergson oppose celui de l'intuition, qui est au contraire celui de la simplicité. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire la vie de l'extérieur, un assemblage de parties, il va la retrouver comme... comme un geste simple, hein, celui par lequel la vie traverse la matière pour obtenir d'elle des formes nouvelles. Alors ce point nous introduit à un élément essentiel qui est indissociable de la dissolution des faux problèmes, justement, c'est d'adopter le point de vue de l'intuition, c'est-à-dire que le point de vue de la création est celui auquel nous donne accès l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition ? C'est une notion phare, hein, du bergsonisme. C'est une notion d'ailleurs à laquelle on a souvent réduit Bergson, hein, pour le pire souvent, hein, au prix de...
En en faisant une sorte de penseur magicien ou de pensée magique, une espèce de machin ou... D'ailleurs, c'est en général, c'est l'idée commune qu'on a de l'intuition. Hein. L'intuition, c'est comme la téléportation, quoi. C'est quelque chose de pas possible qui surmonterait les catégories du réel. Or, l'intuition, c'est au contraire pour Bergson, l'intuition du réel dans sa densité, dans sa profondeur.
Exactement. Connaître une chose de manière intuitive, c'est la connaître sans la déformer. C'est la connaître immédiatement, sans rien lui ajouter, au fond. On pourrait prendre l'exemple que prend Bergson, hein, dans presque tous ses grands textes sur l'intuition, c'est « je lève le bras de A en B, je peux avoir sur ce mouvement de lever le bras deux points de vue, deux perspectives, une perspective qui consisterait à décrire ce mouvement de l'extérieur, le passer de A en B, c'est passer par toute une série d'intermédiaires, et je dirais que le mouvement consiste en cette série de positions que mon bras adopte dans l'espace, mais perçu de l'intérieur, le sentiment que j'ai d'aller de A en B est un sentiment unique et indivisible. Eh bien, connaître, avoir une connaissance intuitive du mouvement de mon bras, c'est, de l'intérieur, avoir le sentiment de ce changement qui est absolument insécable, indivisible, et qui me donne l'impression de la simplicité.
Allons vers juste un point quand même, pour éclairer ce que vous dites sur la question de l'intuition et pour l'illustrer également. C'est un exemple qu'on a déjà cité, Nouveau chemin de la connaissance, mais il est important ici. On pourrait comparer, et d'ailleurs j'invite les auditeurs à le faire, c'est facile, on prend Internet et on tape les deux noms et on les trouve. On peut comparer mettre bout à bout ou mettre côte à côte le tableau de Géricault, le Derby d'Epsom, d'un côté, et de l'autre côté une série de clichés photographiques de Muybridge par exemple. Et constater que dans le tableau de Géricault, les jambes des chevaux, un auditeur averti nous avait signalé qu'on ne disait pas les pattes des chevaux, mais les jambes des chevaux, je lui rends ici hommage, les jambes des chevaux sont tendues, les jambes avant comme les jambes arrière sont tendues. Alors que si on décompose les clichés de Muybridge, on s'aperçoit que ça n'est jamais le cas, ça n'est jamais possible. Que fait Géricault quand il peint les jambes des chevaux tendues en avant et en arrière? Il restitue un mouvement, il restitue une mobilité, il restitue quelque chose d'indivisible, il trahit la représentation qu'on peut en avoir et la décomposition d'un mouvement au profit du mouvement lui-même, malgré la fixité des instruments qu'il emploie à le décrire. On est ici dans l'intuition.
Absolument, oui. L'intuition, c'est cela, hein. C'est l'indivisible, c'est l'indivisibilité du mouvement. Pour prendre un exemple peut-être simple, enfin simple, celui du mouvement du bras, elle l'est tout aussi, mais pour bien faire comprendre ce que c'est que l'intuition, on peut prendre l'exemple d'une poterie. Hein. Devant une poterie, la démarche intellectuelle consisterait à fragmenter la poterie et à la reconstituer. Et ce faisant, elle s'imaginerait avoir fait la genèse de la poterie. Au lieu qu'avoir l'intuition du mouvement par lequel cette poterie est venue à l'existence, ce serait retrouver les gestes du potier. Et là, ce serait là, retrouver les gestes qu'il a accomplis, la peinture qu'il a pu y déposer. Et voilà la différence entre les deux. C'est-à-dire d'un côté, on a une fausse genèse, une genèse qui est complètement reconstruite, qui est complètement intellectuelle, et de l'autre côté, une genèse réelle de la chose.
Le dessin d'une flamme dans la cheminée, tous les enfants du monde sont fascinés, hypnotisés par une flamme dans la cheminée, par le feu d'une cheminée, et par les milliards de formes qu'une flamme peut prendre en un instant infiniment court. C'est émerveillant, si j'ose dire, ou c'est très 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 étonnant, quand on juxtapose chacune de ces formes et quand on se dit mais à chaque forme correspond une intuition et un dessin nouveau et c'est extraordinaire, c'est une des raisons de s'émerveiller. Mais en même temps, le jaillissement de la flamme ne prévoit pas, de la même façon que Dieu n'a pas prévu de planter une pâquerette à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Le jaillissement continu, dit Bergson, d'imprévisibles nouveautés ne relève pas d'une décomposition possible. On ne peut pas décomposer la flamme dans la série des formes qu'elle adopte successivement, Florence Kemax.
Oui, ça veut dire qu'il faut saisir le mouvement, ou alors là en l'occurrence la durée d'une certaine matière, pour lui-même. Et que le grand défaut ordinaire de la non pas seulement de la perception, mais de la conception rétrospective de la perception, c'est qu'elle est incapable de se placer au niveau du se faisant. Et Bergson oppose souvent le se faisant au tout fait.
Le participe passé au participe présent.
Voilà. Et prendre un point de vue sur le tout fait ou partir du tout fait pour penser ce qui se fait ou pour penser un acte nous conduira toujours à l'émietter en une série potentiellement infinie de portions, là où nous savons bien que quand nous sommes dans la position de l'acteur, de celui qui éprouve un mouvement ou qui fait un mouvement, nous avons le sentiment d'une continuité qui elle-même est indivisible et qui fait un tout, quoi, qui forme quelque chose d'organique.
On retrouve là encore une intuition qui est chère à Spinoza, finalement. C'est la différence que Spinoza fait entre nature naturante et nature naturée.
Sans doute, l'intuition comporte bien des degrés d'intensité et la philosophie bien des degrés de profondeur. Mais l'esprit qu'on aura ramené à la durée réelle vivra déjà de la vie intuitive et sa connaissance des choses sera déjà philosophie. Au lieu d'une discontinuité de moments qui se remplacerait dans un temps infiniment divisé, il apercevra la fluidité continue du temps réel qui coule, indivisible. Au lieu d'états superficiels, qui viendrait tour à tour recouvrir une chose indifférente et qui entretiendrait avec elle le mystérieux rapport du phénomène à la substance, il saisira un seul et même changement qui va toujours s'allongeant, comme dans une mélodie où tout est devenir, mais où le devenir, étant substantiel, n'a pas besoin de support. Plus d'état inerte, plus de choses mortes, rien que la mobilité dont est faite la stabilité de la vie. Une vision de ce genre où la réalité apparaît comme continue et indivisible, est sur le chemin qui mène à l'intuition philosophique.
Au lieu d'une discontinuité de mouvement qui se remplacerait dans un temps infiniment divisé, il apercevra la fluidité continue du temps réel qui coule indivisible. C'est l'infini ou l'insondable, l'absolument difficile simplicité autour de laquelle Bergson ne cesse de tourner, qui est la source vive de son travail et qui est en même temps ce qu'il n'arrive jamais à formuler et dont, du coup, il a parlé toute sa vie, Arnaud Boinich.
Oui, on est au cœur du bergsonisme, à travers ce que Bergson appelle la création continue d'imprévisibles nouveautés, formule qui apparaît, qui fourmille dans l'évolution créatrice et qui ensuite ne cesseront de réapparaître sous sa plume. Ce qui est impressionnant dans cette thèse, c'est que la nouveauté est continue. Ça, c'est une thèse impressionnante et c'est la grande originalité de Bergson, je crois, qui nous donne à penser quelque chose qui, finalement, au fond, quand on y pense, est difficile à penser. C'est-à-dire penser non pas la création comme une rupture, comme une interruption, comme quelque chose qui surgirait, et c'est au fond quelque chose qui est assez proche du sens commun, hein, ce qui est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui interrompt notre
C'est d'ailleurs le modèle d'un problème. C'est d'ailleurs le modèle d'un faux problème. On croit en général que du rien a surgi quelque chose.
Exactement.
On crée souvent ex nihilo. Or pour Bergson, ça n'a pas de sens.
Alors que ça n'a pas de sens, la création est toujours chez lui continuation, elle est toujours continue. Et lorsque Bergson veut nous donner des exemples de cette nouveauté, il ne prend pas des exemples d'événements. C'est pour ça que Bergson n'est pas un penseur de l'événement. Je maintiendrai ici une distinction entre une philosophie de la nouveauté et une philosophie de l'événement. Quand il prend l'exemple, au début, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, mais simplement pour poser un jalon ici, au début du possible et le réel, lorsqu'il veut prendre l'exemple de la nouveauté en tant qu'elle surgit dans notre expérience, qu'est-ce qu'il prend comme exemple ? Il prend l'exemple commun. Il doit assister à une réunion. Et il a beau faire, il a beau se représenter les choses, il a beau connaître les gens qu'il va rencontrer, il a beau savoir ce qu'il va dire à cette réunion, ou parfois même ce qu'il va entendre, hein, puisque bon, c'est la réunion, il n'y a rien de plus commun au fond qu'une réunion. Eh bien non, les choses se produisent, et quand elles se produisent, elle déjoue totalement l'anticipation que je pouvais en avoir.
Elles lui apparaissent comme si elles étaient dessinées par une main d'artiste.
Voilà, extraordinaire. Ce qui est le quotidien même, le prosaïque, apparaît à la conscience comme quelque chose d'inouï, d'absolument original.
C'est ici qu'on retrouve chez Bergson une intuition peut-être fondamentale qui va avec l'intuition de la nouveauté, c'est la question de l'étonnement. L'étonnement, ça n'est pas être surpris par ce à quoi on ne s'attendait pas, mais c'est être surpris par l'arrivée de ce à quoi on s'attendait. C'est ici que Bergson était authentiquement un philosophe du réel, d'ailleurs. On n'est pas surpris par ce qu'on ne connaissait pas, on est surpris par ce qu'on connaissait, ce qu'on pouvait prévoir, de la même façon qu'en philosophie, on n'apprend pas quelque chose qu'on ignorait, on apprend quelque chose qu'on savait déjà et dont il s'agirait de se ressouvenir.
Oui, je voudrais revenir sur la surprise justement, parce que la philosophie de Bergson commence par une surprise. Lorsque Bergson, rétrospectivement, revient sur son parcours, il revient sur cette intuition de la durée qu'il a eue pour la première fois, et il explique que cette différence entre la durée et l'espace lui est apparue comme une surprise. Une surprise nous attendait, hein, dit-il dans La pensée et le mouvant. Donc là, on est véritablement dans ce registre-là de l'étonnement. Et il faut garder aussi cette part de surprise toujours à l'esprit. Pourquoi ? Parce que Bergson, au fond, ne voulait pas être bergsonien. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il tombe sur cette différence, il ne l'anticipe pas, c'est l'expérience qui lui impose. Bergson, dans ses années de jeunesse, au fond, cherchait à être plutôt du côté de Spencer, c'est-à-dire plutôt du côté de la mécanique. Il se destinait plutôt à une carrière de philosophe des sciences. Et voilà qu'il tombe sur la nouveauté. Voilà qu'il se dit, le temps de la science ne dure pas. Le temps de la science élimine ce que pourtant l'expérience nous impose, à savoir une création continue de nouveautés. Donc voilà, sur la question de la surprise, vraiment, il me semble que c'est quelque chose de tout à fait fondamental.
On retrouve ici d'ailleurs une certaine conception, enfin la conception bergsonienne de la liberté, dans la mesure où Bergson lui-même n'a pas eu le choix. Et par conséquent, il a été véritablement libre d'adhérer à ce qui relevait d'une expérience qui contredisait ce qu'il avait envie de penser, Arnaud Boisnich.
Voilà. Et d'ailleurs, Bergson, dans une lettre, explique que jusqu'à ce qu'il tombe sur l'idée de durée, il vivait à l'extérieur de lui-même.
C'est-à-dire que, comme à l'extérieur du monde.
Voilà, et à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire véritablement sans s'être trouvé lui-même. Donc, on rejoint ici l'idée que l'acte libre n'est au fond pas opposé à l'idée de nécessité, mais il est lui-même ce que l'expérience, enfin ce consentement à l'expérience, je dirais, à quelque chose qui lui est apparu dans une surprise initiale et qui l'a fait reprendre contact avec lui-même.
On va revenir sur la question de la nouveauté. Juste un point, vous avez dit se trouver lui-même, il faut peut-être ici éviter quelques malentendus. Le fait de se trouver lui-même ne consiste pas chez Bergson à exhumer un trésor enfoui comme s'il y avait un moi-même. En général, d'ailleurs, on dit que c'est bergsonien, ça, hein, le moi social, le moi profond, comme s'il y avait un vrai moi, un moi véritable qui serait enfoui, hein, sous la croûte, la croûte de mes représentations sociales. C'est beaucoup plus subtil que ça. D'ailleurs, on ne pourrait pas se trouver soi-même puisqu'on est pris dans le temps. Donc il n'y a rien d'immuable en moi qu'il s'agirait de retrouver. Ça, c'est une représentation, pour le coup, j'allais dire, populaire. Là encore, c'est une idée reçue, c'est presque un faux problème, cette question d'une identité sous-jacente qu'il s'agirait d'exhumer, Florence Kemax. Quand Arnaud Boisnich parle de se trouver lui-même, ça n'est pas ça qu'il désigne.
Il dit plus exactement qu'il vivait à l'extérieur de lui-même, ce qui est peut-être plus bergsonien.
Oui, mais vous avez dit se trouver lui-même, et vous l'assumez, Florence Kemax. Hein, est-ce qu'il a raison de parler comme ça ?
Je dirais que oui, se trouver soi-même, ça n'a... Alors, Bergson parle souvent d'intériorité pour l'opposer à l'extériorité, c'est-à-dire à la séparation distincte des choses. Mais l'intériorité ne veut cependant pas dire une intériorité au sens banal psychologique du terme. L'intériorité, c'est se retrouver soi-même comme ayant sa propre durée, c'est-à-dire une mémoire, une expérience accumulée. Et je crois que l'étonnement... l'étonnement bergsonien, là, en ce qui concerne vraiment la durée psychologique, c'est à la fois que la vie nous apporte toujours quelque chose de nouveau et d'imprévisible. Nous ne pouvions pas savoir comment allait se passer cette réunion au cours de laquelle nous parlons et nous échangeons. Et en même temps, et c'est là, je pense, qu'est l'étonnement, qu'en même temps, il semble que ce qui est en train de se passer pour nous soit parfaitement cohérent et soit parfaitement organiquement lié aux conditions antécédentes. C'est-à-dire que ça en fait la suite, vraiment.
Ce qui arrive, d'une certaine façon, était écrit, puisque ça arrive sans que ça doive arriver. Et pourtant, c'est surprenant, c'est stupéfiant.
Oui, c'est surprenant, dans la mesure où ça n'était pas écrit, mais simplement il y avait tout un ensemble de conditions qu'on pourrait énumérer à l'infini, mais qui sont toutes contractées dans un instant qui, lui, a sa propre singularité.
Donc raison, ça n'était pas écrit.
Elles prennent une consistance tout à fait singulière ici et maintenant.
Bah, on en revient justement à la question de la nouveauté. On a bien compris que est nouveau, ou surprenant, ou étonnant, chez Bergson, ce qu'on peut prévoir. Le fait de pouvoir prévoir quelque chose ne le rend pas moins surprenant, stupéfiant, étonnant. Et qu'il s'agit en somme de s'étonner, finalement c'est une des leçons implicites, de s'étonner de ce qu'on a sous les yeux, et on retrouve ici l'un des enseignements fondamentaux de la philosophie, à ceci près que chez Platon, l'étonnement, il faut le surmonter pour accéder à la vérité. Ici, l'étonnement s'engendre lui-même, finalement. La vérité à laquelle on accède n'est pas moins étonnante que les motifs qui nous ont fait la désirer. Mais, juste un point, on dit que Bergson n'est pas un penseur du négatif, qu'il n'y a pas de négatif chez lui, et que d'ailleurs, il y a très très peu d'occurrences où il parle de la mort. Sinon, peut-être parfois pour envisager qu'on puisse la surmonter. Mais en même temps, quelle est la chose ou l'expérience, d'ailleurs indicible, qui, quoi qu'on puisse hautement s'y attendre, relève toujours de la stupéfaction ou de l'étonnement, sinon la mort? Est-ce que ça n'est pas un penseur de la mort de cette façon-là? C'est-à-dire au sens où l'expérience, la quintessence de ce qui est étonnant, quoique prévisible, c'est bien le fait de mourir, Arnaud Boinich.
Alors, bon, je dirais que le problème de la mort, effectivement, c'est un problème chez Bergson, justement. Bergson parle souvent, aborde la question...
Un vrai problème chez lui, ça.
Oui, oui. Aborde la question de l'immortalité de l'âme. En tout cas, je dirais plutôt que c'est un vrai problème pour nous. C'est-à-dire qu'on a dit que chez Bergson, il y avait des faux problèmes, mais il y a aussi des vrais problèmes. Et la philosophie a pour fonction de dissoudre les faux problèmes et de répondre aux vrais problèmes, à ce qu'il appelle les questions vitales. Les trois questions, où allons-nous, que faisons-nous, que sommes-nous. C'est les questions, la philosophie doit répondre à ces questions-là. Et je crois que la mort appartient tout de même à ces questions vitales, ou à ces questions que nous ne pouvons pas ne pas poser. Alors ça, c'est un point qu'il aborde sous cet angle-là, dans les deux sources de la morale et de la religion, en montrant que la représentation ou l'anticipation de la mort pourrait avoir un effet déprimant sur nous, et que pour conjurer cet effet déprimant, la nature a prévu de faire se lever en nous la représentation d'une continuation de la vie après la mort, autrement dit, cette fonction fabulatrice qui fait qu'il y a ce calmant, hein, ce qui est naturel, hein, puisque la nature l'a prévu, ça, cet effet déprimant. Nous pourrions, au fond, perdre le goût de la vie, nous pourrions être...
Comme une hormone antalgique, finalement, nous hallucinons un au-delà de la mort pour nous rendre plus digestes.
Ce nihilisme naturel, hein, qui vient...
Il ne s'agit pas de la représentation de la mort, mais de l'expérience de la mort, ou l'expérience de la mort d'un autre. Quelqu'un... on assiste, nous avons tous, enfin peut-être en tout cas, assisté à l'agonie de quelqu'un. Quelqu'un que nous aimions, par exemple. Le fait d'assister à l'agonie de quelqu'un, de savoir qu'il va mourir, hein, quand il meurt, en général, tout le monde se dit « ça fait un choc quand même ». Alors pourquoi est-ce que ça fait un choc alors qu'on peut s'y attendre? Est-ce qu'on n'est pas là, très exactement dans une expérience comparable à celle que vous décriviez tout à l'heure, Arnaud Boinich, en reprenant ce que disait Bergson dans l'évolution créatrice, à savoir « j'ai beau m'attendre à la réunion qui m'attend, j'ai beau connaître les visages de tout le monde, j'ai beau savoir la disposition des fauteuils, etc. 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 reste que l'événement m'apparaît dessiné par une main d'artiste ». Est-ce que finalement c'est pas la même chose? Ce à quoi on peut s'attendre est d'autant plus surprenant que ça arrive.
Oui, le réel nous dépasse toujours aussi. C'est-à-dire que, bon, là, en l'occurrence, dans le rapport à la mort à laquelle on s'attend, la mort d'un proche, bon, le problème ici serait que nous voulons croire, nous voulons penser qu'il ne mourra pas. Il y a cette hallucination aussi, j'imagine. Peut-être que pour les gens qui étaient témoins, qui nous accompagnaient dans ce moment-là, où nous-mêmes nous accompagnions quelqu'un qui était à l'agonie, pour eux, ça faisait pas un doute que nous allions vers l'issue fatale, mais peut-être que pour celui qui était rattaché affectivement à celui qui était en train de partir, celui-ci ne peut pas se résoudre à imaginer, à concevoir cette mort, si bien que quand elle se produit... effectivement, dans un instant, à la fois... Enfin, c'est pas imprévisible, mais disons...
Laissons de côté l'agonie. On sait qu'on va mourir. Nous allons tous mourir. Et pourtant, on n'y croit pas. Pourtant, on n'y croit pas. Et vrai, dans la mort d'Ivan Illich, par exemple, dont Jean Kelevitch parle tellement, la mort vécue par de l'intérieur, un homme qui sait qu'il va mourir, qui tout à coup découvre qu'il va mourir, comprend qu'il va mourir. Jusqu'ici, il croyait que tous les hommes étaient mortels. Et tout à coup, il s'aperçoit que non seulement tous les hommes sont mortels, mais lui aussi. Et que du coup, il comprend qu'il va mourir. Il est stupéfait. Il est stupéfait par ce qu'il savait. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève d'une expérience proprement vitale, justement, un art d'être surpris?
Sur la question de la mort, je ne sais pas exactement ce que Bergson littéralement répondrait à ça. Mais à mon avis, là, Nous savons tous intellectuellement que nous allons mourir. Nous le savons par des expériences accumulées, nous le savons par la science, nous savons même peut-être aujourd'hui à quel moment exactement on peut considérer qu'on est mort, etc. Cela, pour autant, fait de la mort une expérience qui est pour nous toujours différée. Enfin, je veux dire, j'ai un raisonnement heideggerien là, sur la question. Mais si on prend un point de vue bergsonien, on comprendra très bien qu'elle reste toujours pour la vie quelque chose comme un scandale, quoi, pour la vie vécue, puisque de l'intérieur ou comme expérience, elle ne peut pas avoir lieu. Et je pense que c'est une des difficultés du bergsonisme qui part de la vie, de la durée, de quelque chose de vécu, que la mort... reste en effet soit de l'ordre plutôt de l'obstacle, de la mort partielle que représente la matière, les interruptions, etc., mais peut aussi faire l'objet de déclarations qui sont, pour certains lecteurs, très énigmatiques, liées justement au dépassement de cet obstacle ultime que serait la mort. Voilà, je crois que la mort, il faut plutôt la penser du côté de la matérialité de la vie, quoi.
Alors, naturellement, il n'y a pas d'étape obligée hein, dans ces émissions sur Bergson, puisque on pourrait parler de Bergson de toutes les façons, on pourrait en parler en 5 minutes, 5 secondes, on l'a dit hein, déjà, et on se l'est dit entre nous, d'ailleurs, à table tout à l'heure, on aurait pu en parler, on peut en parler pendant 5 ans, on peut en parler à l'infini, finalement, comme il est l'auteur d'une intuition, l'intuition de la durée, l'intuition simplissime de la durée, on est obligé de... on ne fait que tourner autour dans ces émissions. Néanmoins, il y aurait peut-être... parmi les très rares étapes obligées d'un tel parcours, une question qu'on ne peut pas ne pas aborder, ne pas évoquer, autour de cette question de la création et de l'organisation, parce qu'elle l'illustre à merveille, c'est la question des deux ordres chez Bergson, ces deux conceptions de l'ordre. Et je voudrais qu'on entende Anne Brissier nous interpréter tout de suite un texte dans lequel Bergson explique à merveille la différence qu'il faut faire entre ces deux ordres. Vous verrez qu'on est en fait de plein pied, comme toujours chez Bergson, d'ailleurs, quel que soit le bout par lequel on le prend, on est de plein pied dans la conversation que nous sommes en train d'avoir.
D'une manière générale, la réalité est ordonnée dans l'exacte mesure où elle satisfait notre pensée. L'ordre est donc un certain accord entre le sujet et l'objet. C'est l'esprit se retrouvant dans les choses. Mais l'esprit, disions-nous, peut marcher dans deux sens opposés. Tantôt, il suit sa direction naturelle. C'est alors le progrès sous forme de tension, la création continue, l'activité libre. Tantôt, il l'invertit. Et cette inversion, poussée jusqu'au bout, mènerait à l'extension, à la détermination réciproque nécessaire des éléments extériorisés les uns par rapport aux autres, enfin, au mécanisme géométrique. Or, soit que l'expérience nous paraisse adopter la première direction, soit qu'elle s'oriente dans le sens de la seconde, dans les deux cas, nous disons qu'il y a de l'ordre, car dans les deux processus, l'esprit se retrouve. On pourrait dire que ce premier genre d'ordre est celui du vital ou du voulu, par opposition au second qui est celui de l'inerte et de l'automatique. Le sens commun fait d'ailleurs instinctivement la distinction entre les deux espèces d'ordre, au moins dans les cas extrêmes. Instinctivement aussi, il les rapproche. Des phénomènes astronomiques, on dira qu'ils manifestent un ordre admirable, entendant par là qu'on peut les prévoir mathématiquement. Et l'on trouvera un ordre non moins admirable à une symphonie de Beethoven, qui est la génialité, l'originalité, et par conséquent, l'imprévisibilité même.
Voilà, et sur les mesures de cette symphonie de Beethoven, celle que François Connac choisit naturellement, Arnaud Boisniche et Florence Kemax, je voudrais juste qu'on revienne très rapidement, avant d'ailleurs d'en reparler demain, peut-être de repartir de cette question, sur cette idée d'ordre. Chez Bergson, il y a deux ordres, hein, l'ordre de l'enfant qui range sa chambre, de l'astronome qui prévoit des phénomènes astronomiques à une échelle infinie, qui sait où se trouveront les étoiles, et l'ordre du musicien, qui en somme est compatible avec la création continue d'imprévisibles nouveautés, Arnaud Boisniche.
Alors la question des deux ordres dans le...
Vous avez une minute.
Dans le chapitre 3 des évolutions créatrices, non mais très rapidement, simplement, là, cette distinction des deux ordres, elle intervient comme une récusation, la récusation qu'il y aurait un ordre qui émergerait à partir du désordre. Et Bergson explique que la notion de désordre est une notion négative qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a jamais de désordre, il n'y a jamais de chaos, il n'y a jamais dans le réel que ce qu'on appelle le désordre, au fond, c'est l'ordre qu'on n'attendait pas, l'ordre auquel on ne s'attendait pas.
À la façon dont, si je vais dans une bibliothèque chercher des vers et je tombe sur de la prose, je dis « ce ne sont pas des vers voilà, ». Or, je n'ai pas vu l'absence de vers, j'ai vu de la prose.
Exactement, voilà, absolument. Il n'y a pas de vide dans notre expérience, il n'y a pas d'absence dans notre expérience.
Ultime intuition spinoziste, c'est une façon de prendre mes désirs pour les réalités finalement.
Qui conduira Bergson à expulser comme Spinoza le possible comme une illusion qui hante notre expérience, qui elle-même, en elle-même, si abstraction faite des représentations intellectuelles, est totalement et toujours pleine, toujours continue.
Le possible donc comme une invention de l'homme qui prend ses désirs pour des réalités, on en parle demain. Un grand merci à vous tous. Eh ben non, merci, merci Florence Kemax et Arnaud Boinich, merci d'être venus nous voir aujourd'hui et à demain surtout. On continue cette semaine sur Bergson et on va parler d'ordre, non pas de désordre, car comme son nom l'indique, le néant n'existe pas chez Bergson. On va parler d'ordre et on va parler surtout du possible et du réel. Et en prolongeant ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, de la question de savoir de quelle façon le réel est finalement beaucoup plus inventif que tous les possibles dont on a choisi de l'affubler. À la technique aujourd'hui à Paris, au studio 134, c'était Roland Lepreux à la réalisation, François Connac, évidemment au travail, assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo, Florence Malfatto. France Culture, il est 17h50, tout de suite Albert Jacquard.